Bonsoir à tous. Donc, je vais me présenter, hein, Béatrice Schneider, du service diocésain de l'enseignement religieux des écoles élémentaires du diocèse de Strasbourg. Donc, je ne suis pas seule en responsabilité de cet enseignement. Il y a, je vous fais un signe quand vous devez passer la diapo suivante. Hein. Donc, allez-y. Il y a donc une équipe qui est au service. Voilà, alors je disais qu'il y a une équipe de 11 personnes en charge donc de cette discipline, hein, de l'éré. L'éré, hein, c'est l'enseignement de la religion à l'école. Alors cette équipe, elle est sous la direction de M. Spirisen, qui est le directeur de ce service diocésain. Au sein de cette équipe, j'ai la fonction de directrice adjointe donc de l'organisation de cette discipline au sein des écoles des deux départements donc d'Alsace. Et je suis également chargée de formation donc de toutes ces personnes qui interviennent donc dans toutes les écoles des deux départements. Alors, la charge de cette équipe au service de l'enseignement religieux, eh bien, c'est tout d'abord de réfléchir, hein, donc sur l'avenir, hein, de cette discipline, mais aussi de définir des priorités, de les faire appliquer et d'être au plus proche du terrain pour pouvoir répondre au mieux aux demandes, aux besoins et aux attentes des enfants, des parents et également des enseignants. Alors, dans le cadre de la thématique, hein, de l'association Racines et Chemins, que je remercie d'ailleurs tout particulièrement M. Tinguely d'avoir fait appel à notre service, je vais donc vous présenter ce soir cette spécificité alsacienne mosellane. Donc, ce qui est l'enseignement religieux catholique à l'école élémentaire en Alsace. Donc, mon propos gravitera essentiellement autour donc de cet enseignement, mais du premier degré, étant donné que je suis mandatée pour cette organisation du CP au CM2, et je mettrai bien sûr le focus, hein, donc sur former les citoyens d'aujourd'hui et de demain. Voilà. Alors, je vous invite tout d'abord à prendre connaissance donc du plan de mon intervention, hein. Alors, nous allons évoquer en premier quelques repères historiques. Ensuite, nous parlerons du droit local alsacien-mosellan, de l'organisation de l'enseignement religieux, les finalités de l'enseignement religieux, le contenu, le programme, hein, donc de l'enseignement catholique, la formation également des intervenants de religion catholique, un regard sur les statistiques, un temps de conclusion et puis un autre temps de questions-réponses. Ça va? Voilà. Alors, pour vous permettre une bonne compréhension, hein, de cette réalité donc alsacienne-mosellane, je vous propose tout d'abord d'évoquer quelques repères historiques, hein, des repères historiques qui ont marqué donc l'histoire, hein, de ces trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Parce que cette réalité d'un enseignement religieux catholique, protestant et israélite s'explique par des raisons historiques, mais également par le fait que cette réalité, elle s'appuie, elle se fonde sur des textes d'origine française et d'origine allemande également, hein. Alors, nous allons commencer donc par le Concordat, hein, on va commencer par cette période-là, en 1801, ce Concordat qui est encore en vigueur actuellement dans ces trois départements, hein, qui est donc un traité de paix qui a été signé en 1801 entre l'empereur, le premier consul Napoléon Bonaparte et le pape Pie VII. Donc ce Concordat, ce traité est donc un acte un accord juridique hein, qui va organiser, qui va réglementer hein, donc les relations entre le Vatican, et, c'est-à-dire l'Église catholique et l'État, pour rétablir à ce moment-là donc la paix, hein, la concorde, hein, hein, voilà, hein, après donc la Révolution française. Hein. Alors, à ce moment-là, ce traité, il s'accorde bien sûr sur l'ensemble du territoire français. Hein. Il a été étendu, il a été étoffé par des textes complémentaires, par des décrets d'application également hein, concernant le culte protestant et le culte israélite. Voilà donc pour le concordat. Alors ensuite, en 1850, eh bien, cette question de religion, elle concernait bien évidemment de plus en plus l'école. Hein. Et à ce moment-là, le ministre de l'instruction publique, hein, comme on appelait cette fonction de ce temps-là, hein, donc Alfred de Falloux, hein, donc la loi porte son nom. Hein, et cette loi, elle est bien connue donc pour son accord hein, qu'il a donné et pour la grande place qu'il laisse donc à l'enseignement confessionnel dans les écoles publiques. Donc toujours sur l'ensemble du territoire français. Hein. Ensuite, où le paysage alsacien-mosellan va considérablement changer, il va être considérablement bouleversé, c'est lors de la victoire de la Prusse, hein, la Prusse qui a gagné donc la guerre sur la France, hein, et c'est donc ces trois départements qui vont être sous domination allemande, hein, et c'est ce rattachement-là de l'Alsace et de la Moselle à l'Allemagne hein, qui va donner naissance hein, donc au droit local alsacien-mosellan. Et donc les autorités allemandes de ce temps-là ont conservé une grande part de la législation française, dont le concordat et la loi Falloux. Ensuite, on est en 1905, hein, lors de la loi de séparation de l'Église et de l'État, ces trois départements étant encore toujours donc, sous domination allemande, eh bien, le droit local était maintenu. Hein. Pareil, en 1918, hein, donc, lors du retour à la France de ces trois départements, qui étaient tout de même sous domination allemande pendant 50 ans, hein, hein, du Concordat, donc jusqu'en 1918. Hein. Donc à ce moment-là, lorsqu'il y avait le retour à la France de ces trois départements, le droit local était maintenu. Il a cependant été supprimé lors de la Seconde Guerre mondiale par le régime nazi, mais rétabli lors de la libération, hein, qui a donc rétabli la légalité républicaine. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que ce droit local, il a traversé donc différentes époques hein, et il a survécu à différents régimes également. Hein. Alors, ce qui est important de savoir également, c'est que ce corpus de textes hein, et tous les textes et les décrets d'application et les articles organiques qui ont été rajoutés à ce concordat hein, ont été regroupés sous l'appellation hein, du droit local alsacien-mosellan. Alors, très souvent, on a tendance à faire deux amalgames. Hein. Le droit local, c'est la sécurité sociale et c'est la religion. Non. Ce droit local, il réglemente un certain nombre de domaines. Hein. Il y en a 13. Il y a 13 domaines hein, qui sont... Oui, 13 domaines donc qui sont concernés, qui sont réglementés hein, par ce droit local alsacien-mosellan. Donc il y a tout d'abord le régime hein, de la sécurité sociale, le droit local du travail, au niveau du cadastre, le droit des cultes, l'enseignement religieux, hein, les facultés de théologie, les associations de droit local, le droit communal au niveau de la chasse, le régime local de l'artisanat, justice et professions judiciaires, et également des particularités au niveau du droit civil et au niveau du droit de l'eau et du droit fluvial. Donc ce qui va nous intéresser ce soir, on va rapidement évoquer le droit des cultes, et on va vraiment s'intéresser hein, donc à l'enseignement religieux. Mais je pense que c'est important hein, d'avoir cette image hein, que le droit local, mais c'est 13 domaines d'application. Hein. Donc, nous allons très rapidement voir en quoi consiste donc le droit des cultes, hein, qui est réglementé, lui, par le concordat de 1801. Alors, les trois cultes statutaires donc, sont catholiques, les protestants réformés et luthériens hein, et israélites. Hein. Ça, ce sont les trois cultes donc reconnus, hein, inscrits dans le concordat. Hein. Donc, ce qui veut dire que les ministres des cultes sont rétribués par l'État. Au niveau des collectivités locales, elles participent au financement du culte paroissial. Et le service des cultes est directement rattaché au ministère de l'Intérieur. Hein. Voilà un petit peu les grands axes hein, de cette réglementation concernant le droit des cultes. Hein. Alors, on va s'atteler maintenant à hein, cette spécificité hein, qui nous rassemble ce soir, donc l'enseignement religieux en Alsace-Moselle. Donc, il faut savoir que... comment ça s'organise? Eh bien, le code de l'éducation intègre en Alsace et en Moselle un cours d'enseignement religieux dans le programme scolaire de la classe du CP à la terminale. Hein. Donc voici cet article-là, hein, qui est donc noté dans le code de l'éducation. Il y a cet article et d'autres encore, hein, mais ce qui nous intéresse tout particulièrement ce soir, c'est celui-ci. Cet article qui nous dit que la durée hebdomadaire de la scolarité des élèves dans les écoles élémentaires des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est fixée à 24 heures et comprend obligatoirement une heure d'enseignement religieux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Dès lors où cette discipline est inscrite dans le code de l'éducation, ça veut dire que c'est une discipline d'enseignement. Voilà. Donc, une discipline d'enseignement qui doit donc être organisée. L'organisation est obligatoire dans l'emploi du temps hebdomadaire des établissements scolaires. Hein. Donc, ça veut dire qu'il y a 24 heures d'enseignement prévues hein, dans le planning des écoles élémentaires, dont une heure de religion. Ce n'est pas 24 heures plus une heure d'enseignement religieux. C'est inclus dans le programme. Ce qui fait que dans toutes les écoles, cette heure doit être organisée, planifiée, et les élèves ont donc ce droit hein, de bénéficier de cette heure d'enseignement religieux. Donc l'organisation est obligatoire. Cependant, la participation des élèves n'est pas obligatoire, il y a une possibilité de dispense. Mais ce qui ne veut pas dire que c'est une matière optionnelle. Elle n'est pas optionnelle étant donné qu'elle est notée dans le code de l'éducation et elle est considérée comme étant une discipline d'enseignement et cette offre, elle est faite à l'ensemble donc des élèves. Mais le respect de la liberté de conscience implique donc la possibilité aux familles de dispenser donc leurs enfants. Hein. Voilà. Donc on peut dire qu'il y a une véritable liberté de choix. Hein. L'offre est faite et il y a une liberté donc de choix. Ensuite, étant donné que cet enseignement est une discipline d'enseignement, hein, elle va s'organiser en étroite collaboration entre les autorités académiques et les autorités religieuses. Donc, comment est-ce que ça va s'organiser? Eh bien, au niveau des autorités religieuses, donc catholiques, protestantes et israélites, hein, donc je répète, les trois confessions hein, donc, notées dans le concordat. Au niveau des autorités religieuses, nous avons donc quatre prérogatives qui nous sont donc imposées hein, donc par les services académiques. La première prérogative concerne le recrutement hein, donc du personnel qui intervient dans ces écoles, à savoir qu'à l'origine, et le code de l'éducation le précise très, très exactement, à l'origine c'était les enseignants titulaires donc de leur classe, hein, qui étaient pour la plupart de la même confession donc, de leur, que leurs élèves, hein, et au regard de la laïcité qui n'était pas du tout développée à ce moment-là, hein, donc c'était les enseignants qui assuraient cette heure. Hein. À défaut d'enseignants, hein, au vu de l'évolution de la société, c'était, durant de nombreuses décennies, c'était les ministres de culte, donc les prêtres, hein, qui assuraient donc cet enseignement. À défaut, eh bien, c'est devenu donc des intervenants de religion. Hein, voilà. Mais le code de l'éducation précise donc ce recrutement dans cet ordre-là, les enseignants, les ministres de culte et à défaut les intervenants. Donc on peut dire que ça suit absolument, hein, donc, la manière dont ça a été, et dans l'ordre surtout dans lequel ça a été notifié dans le code de l'éducation. Alors en quoi consiste ce recrutement ? Au niveau des autorités religieuses, nous proposons au service académique donc du personnel. Hein, nous assurons l'entretien de recrutement. Si, au niveau des autorités, nous validons donc la candidature, nous montons un dossier administratif que nous adressons aux services académiques qui, dans la plupart des cas, vont valider donc ce dossier. Et cette validation va générer donc un agrément, un arrêté rectoral qui va donc permettre à ces personnes d'enseigner dans les écoles. Deuxième prérogative, on en parlera beaucoup plus en détail tout à l'heure, c'est la formation qui nous revient, le contenu du programme et les visites pédagogiques. On développera ces trois points tout à l'heure. Hein. Voilà. Donc ça veut dire que les intervenants de religion du premier degré donc à l'école élémentaire, hein, donc du CP au CM2, hein, ce sont des intervenants de religion, et les professeurs de religion donc qui sont dans les collèges et dans les lycées donc au second degré sont proposés et formés par les autorités religieuses et agréés par les services académiques. Donc vous voyez bien que cette réalité de l'enseignement religieux, hein, qui est notée dans le code de l'éducation, déjà c'est tout à fait dans la légalité et c'est équitablement réparti, hein, entre les deux institutions, hein, institutions éducation nationale et autorités religieuses. Hein. Voilà. Alors, comme cet enseignement, c'est un enseignement confessionnel, hein, étant donné que ce sont les trois confessions qui sont autorisées donc à enseigner à l'école de la République, mais comme effectivement nous intervenons à l'école de la République qui est un lieu laïque, cet enseignement ne peut pas être confessant. Alors vous allez me dire, c'est compliqué ça. Hein. Il est confessionnel, mais il ne peut pas être confessant. Et oui, et pourquoi ? Eh bien parce que dans le respect de la laïcité de l'école de la République, l'enseignement religieux, il s'inscrit dans un registre culturel et non dans un registre cultuel. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que l'école de la République, c'est un lieu pour apprendre. Les élèves vont à l'école pour acquérir des connaissances. Hein. Donc la personne qui aura en charge cette classe, l'institution éducation nationale va demander à cette personne d'entrer dans une posture d'enseignant et de ce fait, elle œuvrera dans un cadre strictement culturel et le public de l'école, ben, ça peut être des croyants, oui, mais ça peut également être des non-croyants. Hein. Alors que les objectifs de la prise en charge d'un groupe d'enfants dans une paroisse ne sont pas du tout les mêmes, hein, parce que bon, la paroisse c'est un lieu pour faire grandir sa foi. La personne qui est en charge ce groupe d'enfants, eh bien, on ne sera pas dans une posture d'enseignant, mais dans une posture de témoin de sa foi. Et de ce fait-là, cette personne œuvrera dans un cadre cultuel, hein, on sera dans le culte, et le public sera bien un public de croyants. Hein. Alors ça, je pense que c'est très important, hein, de faire la distinction. Hein. Donc, ça veut dire que cet enseignement religieux à l'école, il est ouvert à tous les élèves dans le respect de la liberté des consciences et des croyances de chacun. Hein. Il est au service des élèves d'aujourd'hui, quelle que soit leur confession, et n'ayant pas d'appartenance religieuse. Voilà. Donc, on est bien d'accord, c'est un enseignement confessionnel, mais qui ne peut pas être confessant. Ça va ? On va poursuivre. Donc, comment est-ce que ça s'organise en termes de contenu, hein ? Hein, étant donné que ça, c'est quand même un enseignement confessionnel assuré par des autorités religieuses catholiques, protestantes et israélites, hein, eh bien, il y a des finalités de cet enseignement religieux. La première finalité, c'est donc de permettre aux élèves d'acquérir des connaissances et des notions sur les différentes religions. Première finalité. Deuxième finalité, c'est d'éduquer à l'écoute, au dialogue, au vivre ensemble dans le respect et l'estime des convictions. Troisième finalité, c'est contribuer à la formation des citoyens d'aujourd'hui et de demain pour permettre d'agir de façon civique. Donc, l'enseignement religieux, au regard de ses finalités, va faire acquérir aux élèves donc, des savoirs, des connaissances, mais pas que. Également des attitudes qui vont leur permettre de construire donc leur identité culturelle, mais également relationnelle, religieuse, hein, et ce, donc dans le respect de l'estime et des convictions des uns et des autres. Il s'agit d'informer correctement et de donner des critères de discernement. On va voir comment ça se décline, ces finalités. Donc cet enseignement religieux à l'école, il apporte donc des connaissances. Il va permettre de ce fait d'accéder au patrimoine culturel. Il va permettre, comme je vous disais tout à l'heure, aux élèves de construire leur identité culturelle. Il va ouvrir de ce fait à la pluralité, à l'altérité, à l'autre. Il va éduquer au dialogue, dans le respect et l'écoute. Il va de ce fait favoriser l'apprentissage du vivre ensemble dans le respect des différences. Il va développer un esprit critique. Quand je ne connais pas, quand je ne sais pas, quand j'ignore complètement de quoi il s'agit, on ne peut pas se faire une opinion. On ne peut pas avoir un esprit critique. Donc, à travers ces connaissances qui sont apportées, ça va permettre de développer un esprit critique, une éducation à la paix. Il éduque au dialogue interreligieux. Alors, ça, c'est vraiment un domaine qui est grandissant actuellement. Il répond donc à des questions existentielles. Il développe une pensée autour des problématiques de la société. Et il contribue donc de ce fait à former des citoyens d'aujourd'hui et de demain. Donc, il y a tout un programme donc, qui est conçu du CP au CM2 sur le socle commun de connaissances, de compétences et de culture de l'éducation nationale. Donc, ce programme, il tient compte des 5 domaines de ce socle commun de connaissances, et tout particulièrement le domaine numéro 3, qui traite de la formation de la personne et du citoyen. Alors, les intervenantes de religion ont une obligation d'utiliser ce programme. Il y a un seul et unique programme à enseigner dans toutes les écoles des 2 départements d'Alsace. Pour quelle raison ? Eh bien, c'est que nous portons garant vis-à-vis de l'éducation nationale, que l'enseignement donné est en adéquation avec donc le socle commun et qu'il n'y ait pas donc de dérive possible d'un enseignement de catéchèse, par exemple, parce que cet enseignement-là qui est donné se distingue considérablement du catéchisme, d'un enseignement à résonance, à connotation catéchétique. Voilà. Alors il y a 8 chapitres par niveau de classe, des chants également qui ont été sélectionnés pour que ça reste vraiment dans un registre culturel. Voilà. Donc je vous invite d'ailleurs à aller sur le site ere.alsace. Vous pourrez consulter le contenu des programmes qui sont tout à fait libres d'accès. hein, pour que vous puissiez vous faire vraiment une idée hein, de ce que représente hein, cet enseignement dans les écoles élémentaires d'Alsace. Alors, à partir donc de ce programme, il y a 7 visées hein, qui structurent ce programme. Première visée, ce sont les langages des religions. À travers cet enseignement, les élèves vont aborder l'expression croyante hein, par différentes approches, des doctrines, des genres littéraires, hein, des lettres, des psaumes, des prophéties, à travers la spiritualité et les œuvres artistiques. Alors ça, c'est vraiment une porte d'entrée qui est extrêmement importante hein, et qui fait partie du domaine, on la retrouve quasiment dans tous les domaines hein, du socle commun. Hein, et ça permet effectivement aux élèves hein, de travailler hein, sur ces belles œuvres hein, qui constellent tous les églises et les musées. Hein. Alors, les pratiques religieuses. Les élèves ont donc la possibilité d'explorer les traditions, les rites, les fêtes, les symboles qui jalonnent les principales religions et en particulier, parce qu'on est tout de même dans l'enseignement religieux catholique, en particulier le christianisme. Donc ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que l'accent va être mis sur les pratiques, hein, les rites, les symboles utilisés par les catholiques, hein, comment est-ce qu'ils pratiquent leur foi, au moyen de quel rite, au moyen de quelle fête. Hein. Alors, il y a une ouverture au cycle 3, donc sur les différentes religions, mais je dis une ouverture qui sera développée davantage dans le second degré, hein, donc au collège et au lycée. Hein. Mais en classe primaire, hein, il y a déjà une approche assez pointue, hein, j'ai envie de dire, hein, concernant donc les différentes religions, hein, au niveau des lieux de culte, au niveau des fêtes, hein, notamment. Hein. Voilà, donc cet enseignement va mettre l'accent hein, sur les pratiques donc chrétiennes. Hein. Par exemple, je vais vous citer un exemple pratique. Hein. Nous sommes amenés à faire des visites pédagogiques donc, dans les classes hein, pour voir si le programme est en adéquation, si le programme est adapté également hein, au groupe classe. Et j'ai fait une visite donc d'un prêtre. Hein, qui a pris en charge donc quelques heures d'enseignement religieux et j'ai fixé cette visite le lendemain du mercredi des cendres. C'était pas du tout prévu, hein, c'était un hasard du calendrier. Hein, hein. Et quand je suis arrivée en classe, ce prêtre, il avait emmené un sac de cendres et il s'adresse aux élèves en leur disant qu'est-ce que c'est? Alors, évidemment, 80% des élèves ont répondu c'est du sable. Il a dit non. Pas du sable, ce sont des cendres. Il les a mis dans une coupelle hein, et il leur a dit ces cendres ont été brûlées avec les rameaux chez les chrétiens. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que les rameaux? Il leur a expliqué ce que c'était les rameaux en lien avec l'entrée de Jésus donc à Jérusalem, hein, que les branches des palmes d'olivier ont été. Et oui, voilà, c'est ça, oui. Et donc, il a apporté un maximum de connaissances hein, et il leur a dit, vous avez peut-être vu hier dans vos quartiers, ou peut-être vous ou vos familles, hein, donc des personnes avec une croix grise sur le front, vous saurez que ce sont des chrétiens. Et hier, c'était un moment important pour les chrétiens, ça marquait l'entrée dans une période qui va les préparer à une grande fête catholique, c'est la fête de... Voilà. Alors, vous voyez, il a su parfaitement rester dans un registre culturel. Maintenant, il est clair que s'il avait dit à l'ensemble de sa classe, écoutez, vous mettez les uns derrière les autres, vous avancez hein, hein, en posture méditative, hein, et puis convertissez-vous et croyez en l'évangile, là, il n'aurait pas du tout été dans un registre culturel. Vous voyez bien là la nuance. Hein, hein, on est donc bien dans l'apport de connaissances des pratiques, des rites et des symboles, donc des religions. Hein, voilà. Donc, une autre visée, c'est connaître les récits, les principaux récits et autres textes fondamentaux que les religions ont légués à l'humanité. Donc, j'ai envie de dire par rapport à cette visée que la Bible, pour les intervenants de religion, c'est vraiment le livre de travail par excellence. Alors, il n'aura pas un usage liturgique, hein, il ne va pas du tout conduire à la prière, mais ce livre aura un usage hein, de cette belle bibliothèque qu'elle représente, hein, cette Bible. Hein, ça va permettre donc aux élèves de comprendre la valeur hein, que cette Bible a pour les croyants. Ensuite, quatrième visée, les valeurs communes donc, et personnelles. Hein, donc, les élèves vont être amenés donc, à nommer les valeurs qui confrontent chacun aux grandes questions de la vie et orientent l'existence, hein, donner sens hein, aux choses. Hein, les traces patrimoniales, hein, situer des personnages et des événements à travers le patrimoine historique, hein, archéologique, artistique et religieux. Hein. Donc il y a un certain nombre de supports, de moyens qui sont utilisés hein, donc pour apporter hein, toutes ces connaissances. Et la sixième visée, eh bien, c'est la formation de la personne et du citoyen, hein, donc adopter des comportements respectueux envers les autres et l'environnement par des attitudes bienveillantes, pacifiques, constructives, à la recherche d'un meilleur vivre ensemble. Alors, dans les programmes que je vous ai cités tout à l'heure, nous avons un certain nombre de chapitres qui traitent donc sur l'écologie, sur le respect de la création. Hein, on les sensibilise vraiment également dans ce domaine-là. Et pour arriver à la septième visée, donc l'agir au quotidien. Hein, aller vers les autres pour entrer en dialogue et passer du simple vivre ensemble au faire ensemble, et ce, dans un esprit de service efficient, solidaire et généreux altruiste. Ça va ? Alors, vous êtes un petit peu en avance là sur moi, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, après vous avoir cité les finalités et les visées de ce programme, je vais vous proposer maintenant, pour vous permettre hein, de faire un lien avec ces finalités et ces visées, un lien avec les grands axes d'un cours. Hein, d'un cours qui est donné donc aux élèves lors de cette heure d'enseignement religieux. Alors j'ai fait le choix d'extraire donc les grands axes d'un chapitre de CM2 qui porte le titre Fêter et célébrer. Alors tous les chapitres portent comme titre un verbe. Pourquoi le choix d'un verbe ? Eh bien parce qu'un verbe ça engage. Alors, ce chapitre va donc venir clore l'année du CM2 ainsi que la scolarité primaire. Il va donc se décliner en quatre interventions. Donc, les interventions, ce sont en quatre cours. Hein. Dans la première intervention, les élèves sont invités à se demander pourquoi en fait et à découvrir que Jésus a aussi participé à des fêtes comme celle des noces de Cana. Donc, il va y avoir tout un travail qui va être fait donc, sur cette référence biblique. Hein. La deuxième intervention, les élèves vont travailler sur un calendrier afin de relever et de classer les jours fériés. Donc, ils vont être amenés à repérer les fêtes civiles hein, et les fêtes religieuses. Alors ça, déjà, on est bien, on est déjà dans l'apport de connaissances parce que, bon, on a souvent de belles surprises hein, quand on entend... On demande aux élèves, c'est quoi ? C'est oui, enfin voilà, je ne rentre pas dans les détails. Hein. Et on va affiner cette recherche en prenant un calendrier interreligieux. Et c'est là qu'ils vont découvrir que chaque religion a ses propres fêtes et que dans toutes les religions, bah, les fêtes sont liées à des célébrations particulières. Hein. Alors ça, c'est vraiment une ouverture. Hein, qu'ils ont la possibilité donc de travailler sur ce calendrier interreligieux hein, et ils découvrent donc un certain nombre de choses hein, qui peut, je dis bien, bah, ces choses peuvent très souvent déconstruire des préjugés. Hein. Parce que si je ne connais pas, si j'ignore la religion de l'autre, c'est porte ouverte à beaucoup de choses. Hein. Ensuite, l'intervention 3, ça va être l'occasion d'approfondir le sens des religions, ce qu'elles apportent aux croyants, hein, et que la fête religieuse est un temps fort qui permet aux croyants d'exprimer et de renforcer leur foi. Hein. Là, on fait vraiment un travail sur les fêtes religieuses. Hein. Les fêtes chrétiennes étant connues et célébrées dans beaucoup de familles, les élèves vont découvrir d'autres fêtes, une fête musulmane, l'Aïd el-Fitr, et une fête juive, Hanouka, donc la fête des Lumières. Donc, vous voyez, il y a quand même un vaste éventail qui propose donc une ouverture. Ensuite, encore un autre exemple hein, de chapitre dans CM1, donc ça c'est un chapitre œuvré, qui va donc porter sur la thématique de construire la paix. Dans la première intervention, les élèves vont expérimenter la coopération à travers un jeu, le faire avec les autres, hein, pour construire l'entente et mener une réflexion sur l'entraide et la solidarité. Dans la seconde, ils vont réfléchir à partir d'un album la manière de résoudre les conflits entre eux et ils vont découvrir la parole comme un instrument de paix, le dialogue. Alors il y a une véritable pédagogie du dialogue hein, qui est mise en place pour leur permettre effectivement d'échanger. Hein, nous organisons également des petits débats philosophiques hein, par petits groupes pour vraiment susciter cet échange, ce dialogue. Hein. Ensuite, en troisième intervention, ils poursuivront la découverte d'un témoin, Martin Luther King, qui s'est engagé pour la justice, donc condition indispensable à la construction de la paix. Et en quatrième intervention, avec l'histoire d'un conflit dans la Bible, hein, nous avons choisi l'histoire de Joseph et ses frères, hein, l'IDR, alors ça c'est aussi une abréviation de notre jargon, c'est l'intervenante de religion, hein, l'IDR. Hein. L'IDR met en avant une attitude, celle de ne pas laisser enfermer dans un passé, mais de s'ouvrir à l'avenir, de celui qui reconnaît ses torts et de celui qui accueille un nouvel élan. Voilà un petit peu, donc, à travers ces quatre interventions. Première, construire la paix, c'est coopérer. La deuxième, construire la paix, c'est dépasser les conflits. La troisième, c'est... La troisième, c'est s'engager pour la justice. Et la quatrième, c'est renouer les liens avec les autres. Donc, on peut observer là une progression. Hein. Tout d'abord, on part de l'apprentissage de la coopération et de la solidarité, que ce sont des chemins vers la paix. Hein. Il y a une prise de conscience que la parole, que le dialogue permet d'expliquer, de comprendre et d'accepter des points de vue différents. La découverte d'un témoin, Martin Luther King, qui s'engage donc pour la justice dans son pays, et découvrir à partir de l'histoire de Joseph et ses frères que renouer les liens permet de construire la paix. Donc il y a des points de repère, des verbes, hein, coopérer, s'entraider, se parler, dépasser des conflits, s'engager pour la justice, renouer des liens. Donc il y a tout un travail hein, qui est fait autour de ces verbes. Il y a la découverte d'un témoin, une figure fondatrice, celle de Joseph, des lieux, hein, États-Unis, Égypte, un texte fondateur, hein, le texte de la Genèse, et le discours de Martin Luther King. Donc voilà un peu le... Donc la plupart de nos chapitres hein, sont donc bâtis hein, sur cette trame-là, sur ces objectifs-là et sur ces visées-là. Hein. Ça va ? Donc, un autre chapitre également, hein, donc en lien, c'est une variante hein, au chapitre que je vous ai présenté tout à l'heure. Hein, les élèves, donc en cycle 3, ont également la possibilité de découvrir l'histoire de Rosa Parks hein, contre la ségrégation raciale. Hein, donc là, il y a toute une approche hein, qui est faite hein, pour comprendre que vivre ensemble et construire un monde de paix nécessite le respect des valeurs de justice et d'égalité entre les hommes. Donc ça, c'est à travers, c'est sous forme de jeu, sous forme de débat également, à partir donc de données hein, précises hein, qu'on leur met à disposition. Et donc l'élève doit être en capacité hein, d'expliquer les choix de Rosa Parks et comprendre aussi que l'histoire de ce combat pour l'accès à l'égalité, à la liberté, souligne donc la nécessité de transmettre la mémoire et surtout cette lutte et le courage qu'elle implique. Ça va ? Alors, il y a un point qui me paraît également important de vous présenter ce soir, c'est donc la formation des intervenants de religion, parce que bon, au regard du contenu, il faut absolument que les intervenants de religion soient formés et puissent actualiser leurs connaissances, leurs compétences. Et au niveau donc de notre équipe du service, c'est vraiment notre priorité de pouvoir vraiment, comme je vous disais en début de mon intervention, répondre au mieux aux attentes et aux besoins également. Et en termes de formation, nous nous portons également garant vis-à-vis de l'institution et de l'éducation nationale donc pour assurer une formation donc du personnel. Alors il y a tout d'abord une formation initiale sur un cycle de 2 ans. Donc les personnes, avant de prendre en charge une classe, elles ont un temps de tutorat, un temps de stage d'observation dans une classe d'une personne confirmée. Ensuite, à hauteur d'une journée de formation par trimestre, il y aura donc des apports théologiques, des apports pédagogiques, des ateliers d'analyse de pratique également. Alors ces apports théologiques sont vraiment nécessaires pour la mise en œuvre du contenu de ces chapitres-là. Des visites pédagogiques que j'évoquais tout à l'heure, et des réunions de secteur pour faire des temps d'échange d'expérience. Ensuite, à l'issue de ces 2 ans de cycle de formation, ces personnes donc poursuivent leur formation en formation continue. Et là, il s'agit donc d'actualiser des connaissances et des compétences autour des programmes, toujours avec des apports théologiques et des apports pédagogiques, des visites pédagogiques et des réunions de secteur. Donc voilà pour le volet formation. Alors il me paraît important également de vous montrer que vous ayez un aperçu de ce que représente en termes de chiffres cette réalité de l'enseignement religieux en Alsace. Donc au jour d'aujourd'hui, ce sont les chiffres donc de cette année, il y a donc 348 personnes qui interviennent toutes les semaines dans les écoles du département du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. Donc ça représente à peu près 850 écoles. Voilà. Donc il y a 184 intervenants de religion dans le Bas-Rhin, 164 dans le Haut-Rhin, dont 35 intervenants, une dizaine de prêtres dans ces 35 intervenants et 313 intervenantes. Donc cette année, nous avons un chiffre vraiment particulier, étant donné que ces 348 intervenantes rencontrent toutes les semaines 33 333 élèves qui sont inscrits à cet enseignement religieux. Donc ça représente 18 938 élèves dans le Bas-Rhin et 14 395 élèves dans le Haut-Rhin. Alors les élèves qui ne sont pas inscrits à cet enseignement religieux bénéficient, donc avec leur enseignante titulaire de classe, d'une heure de morale. Voilà. Ce qui représente donc une enveloppe d'heures de 2438 heures qui sont enseignées dans les deux départements. 1274 heures pour le Bas-Rhin et 1164 heures dans le Haut-Rhin. Alors vous imaginez bien que ça nécessite une organisation de la rigueur.
Et ça, ce sont uniquement les heures catholiques ou c'est...
Non, uniquement catholiques. Moi, je représente, comme je vous le disais tout à l'heure, uniquement l'enseignement catholique. Alors, il y a peut-être, parce que nous avons une particularité, mais tout spécialement dans le Bas-Rhin, d'un enseignement interconfessionnel, hein, parce que bon, il y a une plus forte concentration de protestants dans le Bas-Rhin que dans le Haut-Rhin, hein, donc il peut y avoir effectivement quelques élèves protestants. Hein. Mais disons, cet enseignement-là que je vous présente ce soir, c'est donc un enseignement catholique. Hein, voilà. Alors, bien sûr, nous avons quelques défis à relever, hein, pour déjà pérenniser, hein, cet enseignement et répondre au mieux, hein, aux besoins de toutes ces familles, hein, qui ont fait le choix, hein, donc d'inscrire leur enfant. Le premier défi, c'est au niveau du recrutement. Hein. Le paysage du recrutement a considérablement changé, hein, ces dernières années. Hein, nous sommes actuellement dans une situation sur certains secteurs, hein, des deux départements où l'académie nous alloue des heures, parce que c'est l'académie, hein, qui décide du nombre d'heures attribuées par école selon les effectifs des élèves inscrits. Hein. Voilà, donc ça, c'est un algorithme, hein, qui calcule ça. Hein. Voilà, il y a une centaine d'élèves dans un établissement, ça donne droit à 15-16 heures. Hein. Voilà, hein. Donc, dans certains secteurs, nous avons les heures, nous avons les élèves, autrement on n'aurait pas le nombre d'heures, et nous n'avons pas le personnel. Donc, nous avons actuellement à peu près une trentaine d'heures, hein, donc sur les deux départements qui, à ce moment de l'année scolaire, ne sont pas pourvus. Hein, voilà. Donc, notre défi, c'est vraiment au niveau du recrutement, hein, d'élargir déjà notre vivier. Hein, pour l'instant, notre vivier était le secteur paroissial. Hein, voilà, hein. Mais là, on se rend compte effectivement que ce n'est plus suffisant, hein, qu'il faut essayer, hein, d'élargir, hein, donc ce champ de recrutement. Hein. Après, le deuxième défi, eh bien, c'est le statut des intervenants. Hein. Ces intervenants de religion dans le premier degré, donc du CP au CM2, sont sur un statut de vacataire de l'éducation nationale. Donc c'est un statut extrêmement précaire. Hein. C'est-à-dire que ces personnes sont rémunérées au service fait. Hein. C'est-à-dire que durant les congés scolaires ou pour raison X, une absence d'un enseignant ou si elles sont absentes, il n'y a pas de rémunération. Hein. Donc c'est un statut qui est très très précaire. Hein. Voilà, donc on y travaille, hein, on essaye de voir comment est-ce qu'on peut, on pourrait effectivement rendre ce statut moins précaire. Hein. Et c'est donc une rémunération à l'heure, et ces personnes sont rémunérées 5 fois de janvier à août. Donc ce n'est pas une rémunération, oui, 5 versements. Hein, de janvier à août. Hein, donc ce n'est pas une rémunération mensuelle. Hein. Par exemple, les heures effectuées dans les écoles de septembre à octobre leur sont payées fin janvier. Hein. Novembre, décembre, fin février. Et ainsi de suite, 5 fois jusqu'au mois d'août. Donc on y travaille avec les services académiques, hein, pour voir comment est-ce qu'on peut rentrer dans quelque chose de plus régulier. Hein, hein. Troisième défi, c'est de mieux communiquer. Mieux communiquer, pourquoi ? Parce que bon, nous avions un gros travail de communication à faire, hein, parce que pour l'instant, nous n'en avons pas parlé encore, mais durant de longues années, cet enseignement était un enseignement de catéchèse. Hein, jusqu'à dans les années, à peu près, on sentait effectivement les choses tourner vers les années 95-2000. Hein, voilà. Hein. Donc il y avait tout un travail de communication à faire, hein, comme quoi, au vu de la charte de la laïcité, hein, et au vu de la laïcité qui s'est considérablement développée, hein, que cet enseignement ne pouvait plus être donc un enseignement de catéchèse. Hein. Donc, on a fait ce travail de communication, mais avec ça a mis de longues années, hein, et sans exagération, on a mis du temps à faire comprendre que cet enseignement, qui est confessionnel, ne peut pas être confessant. Voilà. Hein. Donc, on continue encore à mieux communiquer pour vraiment faire comprendre, hein, donc aux familles, hein, le bien fondé de cet enseignement. Hein. Et un dernier défi, donc c'est toujours d'être le plus performant possible, hein, donc en termes de formation, hein, donc que l'on donne aux enseignants. Alors, je vais conclure hein, mon propos donc en disant que au regard hein, de l'évolution de la société plurielle, c'est une richesse hein, cette pluralité. Hein, je pense que nous avons tous pu mesurer, surtout ces dernières décennies, la valeur et l'importance aussi des savoirs, des connaissances. Hein, mais à l'opposé de cela, nous avons aussi pu mesurer le danger de l'ignorance et de la méconnaissance. Donc, les grands axes de l'enseignement que je vous ai présenté ce soir s'accordent à dire que cet enseignement, eh bien, il prend part à la construction donc, d'une société harmonieuse. Hein, et donc une société qui est ouverte au pluralisme et ce sous différents rapports, hein, je pense que vous avez pu le constater hein, dans le déroulement des visées hein, que je vous ai faites, mais également cet enseignement il s'inscrit dans un projet de société, un projet de citoyenneté également. Hein. Car les élèves qui bénéficient donc de cet enseignement, eh bien, ça leur permet de trouver une place au sein de la société. Et de ce fait, eh bien, ça leur permet de devenir donc des citoyens responsables, mais des citoyens également soucieux hein, de contribuer au bien commun et au mieux vivre ensemble dans le respect surtout des différences et dans l'estime des convictions et des croyances de chacun. Alors, on va terminer, oui, vous pouvez passer. Donc, l'enseignement religieux, donc, c'est une richesse. Hein. C'est une richesse au sein des jeunes. L'enseignement religieux, il forme les citoyens d'aujourd'hui, les citoyens de demain, et on peut dire que l'enseignement religieux tel qu'il est présenté avec les visées et avec le socle commun de connaissances, c'est un plus. Voilà, et je vais terminer par une très belle citation de Paul Valéry, un écrivain, hein, donc français, écrivain poète, qui nous dit « De tous les actes le plus complet, eh bien, est de construire ».